BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Merci beaucoup d'être avec nous en studio, Bernard Guénier. C'est l'heure du déconfinement, donc c'est presque normal d'être là, vous me direz, mais il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas encore comme vous. Vous êtes le président de PwC France et puis pour le Maghreb. Et puis vous êtes aussi le président de France Innovation et de la fédération dédiée au métier du chiffre, du droit et du conseil. J'aime bien dédier aux chiffres. Justement, comment ces métiers de chiffres, ces métiers de conseil ont traversé cette crise ?
Bah écoutez, en fait, il faut distinguer deux types de métiers, en gros, pour simplifier. Ceux qui ont des métiers de compliance, d'obligation, comme l'audit, la certification des comptes. Donc là, le travail continue avec des enjeux très importants pour les entreprises, leur continuité d'exploitation, leur trésorerie et la valeur de leurs actifs. Dans les mois qui viennent, ça va être un point très important.
Ah bah ça va être un casse-tête d'enfer, non?
Justement, ça va être un casse-tête chinois.
Je sais, c'est pas ce que vous faites, mais enfin, comment aujourd'hui on peut estimer? Non, mais je pense que c'est un énorme problème, c'est qu'effectivement, ouais. Comment certifier des comptes là à la fin du premier semestre?
Bah ça, c'est exactement les enjeux. Donc c'est à la fois le sujet de est-ce que vous allez tenir un an dans notre jargon la continuité d'exploitation. Donc est-ce que vous avez la trésorerie pour pouvoir des comptes qui tiennent la route? Et le deuxième point, c'est quelles sont la valeur de vos actifs. Et là, dans l'incertitude dans laquelle on est, c'est un débat assez insensé en fait que nous avons avec nos clients. Qui, quand je dis insensé, c'est pas facile parce que ni nous ni eux n'avons une vraie réponse. Donc, il faut être très humble par rapport à ça. Mais c'est notre boulot.
Traverser en télétravail total.
Ah, nous avons traversé en télétravail total. Nous étions déjà en fait en mobilité nous-mêmes, puisque en fait
en mobilité, j'aime bien un côté un peu jargon. Si je veux. Non mais oui. En mobilité, oui.
Mais ça veut dire que nos outils, ils sont utilisables partout où que nous soyons à la maison, au bureau, dans un café ou chez nos clients. Ouais. Et ça, c'était avant même la crise. Donc on n'a pas vu nous cette problématique fondamentale. Par contre, la présence à la maison de nos équipes crée un centre de difficultés et aussi d'opportunités.
On va y revenir parce qu'évidemment, c'est un des premiers grands enseignements de cette crise. Justement, qu'est-ce que vous, Bernard Guénier, vont être les grandes tendances? Qu'est-ce qui se dessine déjà et qu'est-ce que vos clients vous demandent aujourd'hui?
Vous savez, il y a deux sujets. Il y a le sujet du court terme, il faut passer la crise. Ouais. Donc déjà, c'est comment je réagis, comment je suis solidaire avec mes équipes, comment je préserve mon cash. Donc ça, c'est des sujets très, très importants. Il faut être très humble par rapport à ça, être très, très à l'écoute de nos clients et en même temps leur dire, soyez lucides, parce qu'il faut savoir faire face à la crise. Il ne faut pas s'enferrer dans des situations qui n'apportent rien, qu'on soit PME d'ailleurs ou grande entreprise.
Une ça, PME, c'est quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple. C'est quoi
Une PME, un restaurateur du quotidien, son sujet c'est si j'ai pas de chiffre d'affaires, je continue à être ouvert, je vais engager des coûts pendant des semaines et des mois et je vais juste brûler toutes mes capacités et je pourrai plus redémarrer. Donc la question c'est est-ce que je dois pas arrêter complètement pour repartir plus tard pour pouvoir recommencer avec un minimum de bagages avec moi en termes de capacité à faire. Et ça va être un des grands enjeux. Donc je dirais que l'adage sur le sujet d'être, est-ce que selon que vous soyez puissant ou misérable, va jouer beaucoup. Ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir gagner, ceux qui ont moins d'argent auront plus de difficultés.
Oui, mais rien à gagner. Si on voit pour un restaurant, effectivement la question est assez simple, c'est-à-dire on ferme en attendant que, d'accord. Moi, vous êtes une PME.
Moi-même, on arrête complètement.
Hein. Vous êtes une PME, on arrête complètement. Quand vous êtes une PME, vous êtes une plus grande entreprise, une très grande entreprise, c'est difficile de mettre la clé sous la porte et de réouvrir trois mois après, quoi, vous voyez ?
Exactement. Donc, c'est là où les mesures transitoires que l'État a mis en place, et je pense qu'il faut le souligner parce que les mesures qui ont été faites en matière d'économie sont extrêmement puissantes, elles sont temporaires, le sujet du plan de relance viendra après, mais là, elles sont puissantes, il faut savoir les utiliser, savoir les mettre en œuvre, et c'est pas toujours facile pour ces... Plus on est petit, plus c'est difficile vis-à-vis des banques, vis-à-vis des prêts garantis par l'État, je peux vous dire que pour y arriver à obtenir ces prêts, ça prend plus de temps qu'on imagine et c'est extrêmement frustrant pour les petites entreprises, voire les PME, voire les ETI, voire même les grands groupes, avec évidemment pour des grands groupes des sujets de prise de contrôle par l'État, parce que avec des suggestions de type environnemental comme pour Air France qui vont être extrêmement importantes et qui sont, je me sens assez réalistes pour qu'on puisse se projeter dans le monde de demain.
Oui. Vous avez mis en place la plateforme Covid Écoute, hein, je crois.
Alors, ça c'est un de nos engagements, c'est-à-dire que nous voulons être engagés. C'est pas parce que y a des enjeux business qu'on doit se rétracter et on doit être conforme à nos engagements. Et nous qui avons une vision de l'humain comme étant le centre de tout ce qui doit être fait au sein de l'entreprise, parce que l'entreprise, pour moi, est le moteur de demain de l'économie, mais de notre société. Covid Écoute, c'est quoi? C'est nos équipes nous ont dit, il y a une opportunité pour une association qui s'appelle Fondamentale pour relier les patients, enfin les familles à des problèmes à des psychiatres ou des psychologues, et on a mis en place de façon pro bono, gratuite, le dispositif, l'application, avec le soutien de beaucoup de gens, dont AXA.
Oui, justement, mais si je vous pose la question, c'est parce qu'en fait, ce Covid écoute, j'ai envie de dire, chacune des entreprises devrait le faire par rapport à ses salariés aujourd'hui, non ? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous demandez, vous dites un peu dans cette gestion de crise, voilà, il faut que vous mettiez, et puis dans ces transformations que vous accompagnez, il faut qu'il y ait une plateforme d'écoute.
Alors, la plateforme d'écoute, pour moi, c'est essentiel. La psychologie dans l'entreprise va avoir un temps extrêmement important et qui va durer. On a souvent parlé de risques psychosociaux. Nous, on a mis en place une application avec une start-up pour permettre à chacun de nos salariés de pouvoir se connecter à cette plateforme et d'avoir un dialogue sur les difficultés personnelles, parce que il faut que le salarié se sente en confiance. La confiance est essentielle pour demain. Et si on veut véritablement garder ce lien avec nos équipes, cette écoute-là, l'écoute est essentielle pour l'ensemble des salariés, quelles que soient les entreprises, leur taille, et ce dispositif, grâce à une start-up et à des psychologues, ça a un impact très très fort pour nos équipes.
Ouais.
Très très fort.
Et ça c'est un point, je pense, que là qui va jouer beaucoup.
Très très fort. La sortie de déconfinement est un enjeu.
La sortie de déconfinement.
Oui, parce
l'angoisse du déconfinement, il faut appeler un chat un chat. Hein. Peut-être pas pour nous, mais en tous les cas, pour beaucoup de gens.
Mais certains ont peur de sortir, mais certains ont envie de sortir. Mais la difficulté, c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont assez confortables, finalement, dans leur dispositif. Et je pense que l'enjeu pour la France aujourd'hui, c'est se remettre au travail. Hein.
Ouais.
Et donc, quand je dis se remettre au travail, c'est que tous collectivement, on doit y aller.
Est-ce que ça va changer beaucoup votre profession, vous pensez ?
Ah, ça va changer inévitablement les compétences que nous allons devoir déployer en matière de sécurité, en matière de gestion des risques. La notion de risque dans notre société va être revue, à mon sens, de façon assez drastique.
Elle est fond en comble. Hein.
Oui, ouais. Complètement. Ouais. Et avec des notions stratégiques d'enjeux collectifs et de solidarité qui, pour moi, sont essentielles, parce que c'est là où ça va se jouer. Est-ce qu'on est capable de rester dans l'ordre néolibéral que nous avions antérieurement, qui était un peu la raison du monde, et qui doit aujourd'hui passer d'une vision très compétitive à une vision beaucoup plus solidaire et beaucoup plus stratégique.
Est-ce qu'il n'y a pas deux points très importants quand même dans votre métier, mais parce que ça a une répercussion sur les entreprises, vous l'avez dit, c'est les risques. Je pense qu'aujourd'hui, pour les entreprises, les risques sont en train de complètement changer. Je ne parle pas forcément du risque, effectivement, avec la bagarre qu'il y a avec les assureurs, mais on voit bien que pour les entreprises, ça va changer beaucoup. Et puis, on est basculé dans le numérique beaucoup plus.
Tout à fait.
Or, les entreprises françaises étaient quand même assez en retard. Et là, on a sauté un pas, et donc c'est un peu un saut dans le vide pour certains.
Ah bah, tous les grands patrons s'aperçoivent que finalement ça marche.
Oui.
Ils n'étaient pas tous convaincus, je peux vous dire. Hein. Mais sur l'aspect risque, c'est important, c'est de comprendre, c'est qu'on est dans un monde d'incertitude. Et aujourd'hui, moi, chez PwC, je ne travaille plus en budget. Je travaille en scénario et je pilote au jour le jour. Donc sur mon iPhone, j'ai un pilotage. Donc il faut travailler en scénario. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir un budget. Ce qui compte, c'est se préparer au pire pour espérer le meilleur. Et donc cette notion de scénario va jouer beaucoup. Et comment on va gérer les risques, c'est comment on gère des risques inhabituels qui ont un impact très significatif. On a eu tendance à croire que nous étions protégés, alors qu'en réalité, la vie est un risque permanent et qu'il va falloir justement éviter d'être toujours dans la prévention de tout, mais surtout dans l'anticipation de beaucoup de choses.
Oui, ça c'est un point à travailler en scénario et non plus uniquement
tout
sur un tableur Excel. Donc, donc ça veut dire, en termes de management, ça change beaucoup de choses.
Ah oui, ça change beaucoup de
choses. Surtout le management à la française.
C'est moins descendant.
Avec la réunionite aiguë, le management totalement vertical. Là, je pense qu'il va y avoir des sacrées révolutions.
On est dans des cycles beaucoup plus courts. Et dans une vision plus long terme. C'est assez paradoxal. Hein. On est
c'est même
à la fois très court,
a priori,
oui. On est à la fois très court et très long en même temps. Et comment gérer les deux, c'est piloter très court, mais scénariser plus long. Et ça, c'est à mon avis le sens des choses aujourd'hui.
Oui. Est-ce que vous pensez d'abord qu'il y aura beaucoup des restructurations massives ? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande ?
Écoutez, c'est évident qu'il ne va rien avoir. Il y a des secteurs qui sont
en
danger de mort. Il y a des secteurs qui sont totalement à l'arrêt. Le temps de reprise va être très lent pour certains. On n'arrête pas des usines, on n'arrête pas des hôtels et des séries d'hôtels ou de restauration. On le voit bien, même réouvrir des bureaux aujourd'hui chez nos clients, alors qu'on les aide à faire ça sur les aspects réglementaires et autres. C'est long et le redémarrage est très long, beaucoup plus long qu'on ne l'imagine. Et donc, il va y avoir effectivement, au-delà de ça, des enjeux de business qui vont être mis en cause, parce que ça va remettre fondamentalement en cause certains enjeux. La technologie va jouer un rôle fondamental et certains vont avoir de grosses difficultés. Il faut faut pas croire que les mesures temporaires vont nous extraire des difficultés de long terme, parce que ces mesures temporaires ne sont que des mesures d'aide de trésorerie. Elles ne sont pas des mesures d'aide à trouver du chiffre d'affaires et à redéfinir la façon dont on fait le business dans les années qui viennent.
Non, ça, il faut que ça reprenne. Juste un petit point, puisqu'il nous reste 30 secondes, Bernard Gagné, c'est vous disiez que vous mettiez en place justement toutes les mesures sanitaires pour les entreprises. C'est quand même kafkaïen, non ? C'est très compliqué, hein, oui, si on suit les protocoles, non ? Vous arrivez à,
oui,
le,
c'est kafkaïen, mais à un moment donné, il faut savoir bien se caler sur un certain nombre de principes. Je veux dire, les mesures barrières, il faut les mettre en place. Selon les situations, il faut s'adapter à chaque situation. Donc, il y a un environnement contraint, mais je pense que l'intelligence collective trouve les solutions. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas de difficultés. Ouais. Il faut juste être conscient des contraintes.
J'ai bien aimé cette phrase, hein, je trouve, à mon avis, très intéressante. Aujourd'hui, il ne faut plus travailler en budget, mais travailler en scénario. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bernard Gagné, donc, est président de PwC pour la France et donc le président des métiers dédiés aux chiffres, aux droits et aux conseils. Et ben, c'est une question que je poserai justement dans un instant. Notre invité, François Asselin, le président de la CPME, sera avec nous. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est François Asselin, président de la CPME. Merci d'être avec nous par FaceTime. La prochaine fois, vous serez en studio, hein, François Asselin, maintenant.
Ah, j'espère bien.
C'est l'heure du déconfinement. Vous avez appelé à un plan de relance. On va y revenir. Juste d'abord, comment ça se passe, ce déconfinement, pour les TPE, les PME que vous représentez ?
Alors, vous savez, la date du 11 mai, c'est une date marqueur, puisque c'est la date officielle où on se déconfine. Mais pour les entreprises qui continuaient, même modestement, à être en activité, eh bien finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, puisque maintenant le décor est planté. On sait qu'il va falloir travailler pendant de nombreux mois avant que nous ayons un vaccin, avec cette contrainte, hein, cette contrainte épidémique, qui fait que ce déconfinement, eh bien, d'abord, c'est un signe d'espoir, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se battre sur le plan économique. Mais en même temps, c'est une grande angoisse, parce que on n'est pas sûr de retrouver notre niveau d'activité, parce que c'est très compliqué, qu'on avait autrefois.
Oui, mais là, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez à peu près combien d'entreprises au sein de la CPME ont repris leur activité ?
Alors, hormis bien sûr celles qui restent concernées par une fermeture administrative, pour toutes les autres, eh bien, pratiquement toutes les entreprises ont commencé à redémarrer. En tout cas, celles qui avaient de l'activité, parce que lorsque on a connu ce temps suspendu, il y avait des commandes encore à honorer, donc elles ont redémarré. Mais malheureusement, c'est très progressif. On aimerait pouvoir bien sûr faire plus et plus vite.
Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous disent, je ne parle pas celles évidemment qui sont fermées par des contraintes réglementaires, oui. Je parle de celles qui pourraient réouvrir, mais qui sont des situations catastrophiques, qui sont au bord de la faillite. Est-ce que là vous avez forcément des remontées?
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, que voulez-vous ? D'abord, elles étaient alors nombreuses, on ne sait pas encore l'évaluer. On aura évidemment cette évaluation avec les greffes des tribunaux de commerce, puisque c'est, on va dire, ultime lorsque vous déposez le bilan, c'est de vous adresser au tribunal de commerce. Il faut bien sûr s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation des défaillances, parce que certaines entreprises qui étaient fragiles avant cette crise, eh bien évidemment, leur sort ne s'est pas arrangé pendant cette crise. Et donc, pour certaines d'entre elles ont beaucoup de mal à redémarrer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut réinvestir pour acheter la marchandise, pour remettre en rayon. Et certaines n'ont plus les capacités d'investissement parce que la trésorerie est à sec.
Bruno Le Maire, qui était notre invité lundi, disait justement au jour du déconfinement, disait en fait, il y a trois étapes dans son agenda. Il y a l'étape de la précaution, ensuite, il y a le soutien. Et puis ensuite, viendra le temps de la relance. Mais pour lui, le temps de la relance n'est pas encore venu, parce qu'on est toujours dans le soutien, notamment après avec les PGE, les fonds de solidarité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Parce que moi, je vous ai entendu dire que vous vouliez un plan de relance avant l'été. Mais c'est trop tôt avant l'été, non ?
Ah non, il faut les deux. Il faut les deux, Edwige, chez Orion. Il faut les deux. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire a toujours été très clair, très pédagogue, et on ne peut pas lui faire de reproches quant à la gestion de cette crise. Il a franchement été au rendez-vous. Par contre, il faut d'une part continuer à soutenir les entreprises, parce qu'on a beaucoup de mal à redémarrer à la hauteur de ce que nous avions précédemment. Mais en même temps, il faut nous donner des perspectives. Je vais vous prendre un exemple très concret. Là, vous voyez, on arrive à l'été et c'est à ce moment-là où on décide de garder, par exemple, les apprentis qui arrivent en fin de période d'apprentissage. Est-ce qu'on leur fait un CDI ou pas? Et peut-être de recruter ceux qui vont arriver en septembre sur le marché de l'emploi. C'est maintenant que ça se décide. Et l'acte qui déclenche cette décision, c'est les perspectives. Finalement, est-ce que mon carnet de commandes va se remplir ou pas? Et si on n'a pas de perspective, à savoir si on n'a pas une idée, en tout cas, d'un plan de relance avant l'été, eh bien, on risque de ne pas prendre de décision, en tout cas positive. Donc, c'est pour ça qu'il faut que Bruno Le Maire, bien évidemment, agisse pour que le plan de reprise n'attende pas la rentrée, mais commence déjà à entrer en œuvre avant l'été.
Oui, mais là il faut déjà, je veux dire, éteindre le feu, parce que là, avant l'été, j'espère que vous avez raison, mais en tous les cas, il y a une chance malgré tout que la crise de la Covid soit pas terminée, c'est-à-dire qu'on soit encore dedans. On peut avoir une période de reconfinement, de déconfinement, etc.
Bien sûr.
C'est même un peu trop tôt pour se dire, tiens, je vais faire mes perspectives, non?
Eh bien, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le décor, il est planté. Donc, de toute façon, il va falloir vivre et donc travailler avec ce Covid-19. On a les contraintes. On est habitué, nous, chefs d'entreprise, à travailler avec des contraintes, une de plus, non des moindres. Mais on va relever le défi. Vous pouvez compter sur nous. À côté de cela, il faut justement continuer à soutenir et les salariés et les entreprises, entre autres avec le système du chômage partiel, mais en même temps donner des perspectives et de...
Mais est-ce que ça veut dire que le chômage partiel...
Les marchés publics qui n'ont pas été, par exemple, engagés, qui sont restés en suspens, il faut immédiatement les réactionner. Toutes les filières, il y a l'aéronautique, qui comprend un nombre très important de PME qui sont extrêmement qualifiées, ce sont des pépites. Eh bien, il faut donner des perspectives pour tout simplement ne pas, dans cette période, laisser à penser qu'il va falloir tout le temps se mettre en mode résilience et du coup avoir un impact très négatif sur l'emploi.
Selon une enquête toujours de BPI, il y a 91% des dirigeants de PME, c'est vraiment votre organisation, oui. François Asselin, s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires annuel à cause de cette crise, et 59% anticipent une reprise très 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 difficile. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les PME, avec les outils dont vous disposez, c'est la réponse vraiment adéquate? Vous avez tiré votre chapeau à Bruno Le Maire. Oui. Donc pour vous, c'est. Mais le chômage partiel, ça doit continuer jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la crise? Jusqu'à quand?
On est tout à fait conscient que l'État ne pourra pas bien longtemps supporter, rendez-vous compte, plus de la moitié de l'emploi salarié du secteur marchand. Si j'osais une comparaison, il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires en France, finalement.
4 sur 5.
Donc, on est tous conscients que l'État ne pourra pas, entre guillemets, porter tout cela bien longtemps. Ouais. Donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut se donner vraiment tous les moyens de redémarrer et d'éviter la catastrophe des licenciements économiques en rafale. Et pour cela, effectivement, il faudra, d'une façon progressive, mais très lente, garder un dispositif qui nous permet de conserver les compétences sans les sortir de l'entreprise dont nous aurons besoin lorsque tout cela repartira. Et le dispositif du chômage partiel est un excellent dispositif. Alors, on s'attend à ce qu'il soit dégressif. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut qu'il soit le plus légèrement dégressif possible et qu'on nous donne un petit peu de temps pour tout simplement amortir le choc que nous sommes de vivre et de traverser.
Le plan de relance, demain matin, je reçois Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, qui lui a aussi son idée d'un plan de relance. Il a fait un appel, vous avez dû le suivre, avec deux autres, les MEDEF italiens et allemands. Donc il y a trois grandes organisations patronales qui appellent à un plan de relance extrêmement massif au niveau européen. Le plan de relance à la sauce CPME, ça donne quoi? Quelles sont les mesures phares que vous demandez?
Alors, j'aime bien votre expression à la sauce CPME. Pourquoi? Parce que le plan de relance que nous sommes en train de construire, et on va certainement le publier dans très peu de temps, on est en train de le peaufiner, eh bien, c'est un plan de relance voulu par les PME pour les PME. Mmh. Et avec les axes suivants, nous pensons qu'il faut d'abord actionner ce plan de relance ou l'accès vers les filières, vers les métiers qui sont générateurs de beaucoup de main-d'œuvre. En clair, ce qui fait espérer les gens, c'est quand il y a du boulot. Vaut mieux orienter vers des secteurs à fort taux de main-d'œuvre plutôt que de donner du pouvoir d'achat qui peut se transformer en achat de produits fabriqués en Asie, par exemple. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un ancrage territorial. Il faut que cette relance concerne des secteurs qui sont ancrés dans tous les territoires. Pourquoi ? Parce que c'est là où on trouve les petites et moyennes entreprises. Voilà. Et puis, troisièmement, il faut profiter de ce plan de relance pour avoir une action intelligente. Et je pense entre autres à la rénovation énergétique. Voilà un endroit où si on met le paquet, eh bien, c'est de l'investissement, mais qui demain va générer des économies de consommation d'énergie. Voilà un petit peu le triptyque sur lequel nous focalisons, à savoir de l'économie circulaire, ancrée dans les territoires et vers des secteurs à fort taux de main-d'œuvre. Et puis, ne pas oublier, je l'ai évoqué tout à l'heure avec vous, les filières technologiques comme l'aéronautique, où là, franchement, il faut les soutenir. Pourquoi ? Parce qu'on a des pépites. Et ces pépites, il faut absolument les conserver. On a la chance d'être dans un pays qui maîtrise parfaitement de A à Z la construction des plus beaux avions du monde. Ça serait quand même terrible si nous perdions cette belle capacité technologique.
Et pour les soutenir, donc là, on a bien compris. Merci de ce triptyque. Après, je vous demanderai si, en quoi il diffère peut-être de celui du MEDEF. Mais juste un point quand même. Ça passerait par quoi ? Ça passerait peut-être par maintenir le chômage partiel, je ne sais pas, jusqu'à la fin du troisième trimestre. Est-ce que ça, ou alors au contraire, un peu dégressif, mais très doucement, par des allègements de charges. Qu'est-ce que vous demandez concrètement sur le compte d'exploitation, vous voyez ?
Alors écoutez, il va falloir un petit peu de tout. Pourquoi ? Parce que déjà, vous savez, pour beaucoup d'entreprises, hormis celles qui sont victimes d'une fermeture administrative, c'est simplement des charges qui sont décalées ou un prêt qu'il faudra rembourser. Donc finalement, jusqu'à maintenant, ces mesures étaient nécessaires, je ne les critique pas. Mais on a poussé le tas de sable et il y a un moment ou un autre, il faudra le rembourser. Il faudra certainement se poser la question comment, tout ou partie, transformer ça, pourquoi pas en quasi-capitaux propres, pour permettre aux entreprises qui ont un modèle économique qui est viable, eh bien, de ne pas sortir complètement rincées de cette période terrible et qu'elles puissent garder de la capacité d'investissement. Ça, c'est un levier qui était intéressant, qui va d'ailleurs faire partie de nos propositions, pour imaginer une relance qui permette tout simplement de ne pas rester en mode résilience, mais en mode espérance. Deuxièmement, si vous voulez, il va falloir garder un dispositif d'accompagnement, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que quand bien même on a un bon carnet de commandes, on a du mal, avec toutes les contraintes qui nous sont imposées, de réemployer rapidement tout le monde. Donc, ça serait dommage de passer par la case licenciement économique si 3 mois plus tard, eh bien, on a besoin de les recruter à nouveau. Voyez ? Donc là, il faut être très offensif sur la formation professionnelle continue, par exemple. On pourrait voir comment, on pourrait pourquoi pas créer un système d'apprentissage, y compris pour leurs salariés, une sorte d'alternance pendant une longue période entre formation et présence en entreprise, ah oui, en attendant de pouvoir retrouver toutes nos capacités à 100%.
Oui, la formation prendrait le relais pendant le
exactement, avant, hein, c'est ça peut être un des leviers.
Allègement de charges, pardon, là, pour vous, c'est...
Alors, vous savez, on a déjà, sur les bas salaires, c'est enclenché. Donc, des salaires autour du SMIC, il y a déjà beaucoup d'allègements de charges. Par contre, et là, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait, en tout cas, nous, on va proposer. Vous prenez le cas de l'apprentissage. Il faudrait éviter de sortir les apprentis qui arrivent en fin de cycle parce qu'on ne va pas leur faire de CDI. Ouais. Nous, ce qu'on demande, c'est de pouvoir prolonger d'une année la formation de ces apprentis avec un certificat de professionnel qualifiant, un examen supplémentaire, pourquoi pas, et de permettre à ceux qui doivent rentrer dans la vie active, dans le monde du travail, de pouvoir les recruter. Et là, effectivement, on pourrait se dire, il faudrait que ça soit à iso-coût, que l'apprenti touche bien sûr une rémunération, mais que pour l'entreprise, il n'y ait pas d'impact en termes de masse salariale.
Toute dernière question, François Asselin, c'est la question un peu rituelle là, dorénavant dans l'RH. Le monde d'après, selon François Asselin, il est comment ?
Alors écoutez, si j'avais la réponse, je serais très heureux de pouvoir vous la donner. En attendant, il y aura à mon avis deux mouvements. D'abord, il va y avoir un mouvement immédiat. Il faut qu'on s'en sorte. Voilà. Donc on y va avec énergie, il faut se battre. Et puis deuxièmement, le monde d'après, eh bien, il y aura des questions stratégiques très fortes à se poser. Je ne pense pas qu'on puisse se recroqueviller sur notre petit village gaulois. On aura toujours besoin d'échanger parce qu'il y a ne serait-ce que pas loin de 40% des Français qui travaillent grâce à l'export. Mais pour autant, il faudra certainement se poser la question de l'économie circulaire, tout en restant ouvert sur l'extérieur. Voilà.
Et voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, François Asselin. Donc, on attend, mais ça y est, vous l'avez développé, votre plan de relance. On a bien compris les trois axes importants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, bonne journée. Dans un instant, on verra justement si cette crise financière, elle est aussi importante que celle de 2008, quelles vont être ses conséquences. On voit ça avec Jean Rabhi. Jean Rabhi, il est le patron de Natixis Investment Management. Bon, il gère à peu près 800 milliards d'euros. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en fait. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, ça fait 29 ans qu'il est en France, mais il a toujours son accent canadien coupé au couteau. Jean Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Il faut bien un peu d'humour par le temps qui court. Vous êtes le
revendique mon accent.
Vous êtes le patron de Natixis Investment Managers. Vous gérez 828 milliards d'euros. Vous allez nous dire dans un instant si cette crise qu'on traverse, est-ce qu'elle vous rappelle celle de 2008 ou pas. Vous avez subi une décollecte de 7 milliards à peu près d'euros, ce qui n'est pas énorme par rapport à... Puis vous avez toujours quelques complications, on y reviendra, de 17 milliards, pardon. Mais cette crise, elle vous rappelle celle de 2008 ou pas du tout?
Non, écoutez, elle ne me rappelle pas parce que je pense qu'on a toujours tendance à essayer d'analyser la situation actuelle en faisant référence à des situations dans le passé.
Oui.
Et ici, je pense qu'il y a quelques éléments importants à noter. Tout d'abord, c'est un facteur exogène qui nous offre.
C'est une chauve-souris, oui.
Hein? Et on y a apporté une réponse qui peut-être a bénéficié des enseignements de la crise financière de 2008. On a eu des banques centrales, notamment, qui ont réagi de façon très, très rapide, avec des programmes de stimulus très importants et dans une approche beaucoup plus globale que ce qu'on avait vécu en 2008. Deuxièmement, des gouvernements qui ont pris la mesure de l'impact que ce que le confinement et l'arrêt de nos économies pouvaient vouloir dire pour les entreprises. On a des programmes d'aide aux entreprises très conséquents également. Et enfin, je pense qu'on doit dire que la crise de 2008 était tout d'abord une crise financière.
Ouais.
Aujourd'hui, ce n'est pas une crise financière. Peut-être même que la finance, et là, je répète un peu ce qu'on a dit récemment, mais je pense que c'est vrai, la finance peut faire partie des solutions à apporter à l'impact que cette réponse à la crise sanitaire a eu sur la vie économique.
Un peu en quoi? Parce que justement, j'ai envie de dire que tout le monde se dit qu'il faut se passer de la finance. Moi, c'est la plus... En entendant beaucoup de chefs d'entreprise, ils vous disent un peu ça, il faut arrêter d'aller en bourse parce qu'on n'a plus besoin d'avoir cette pression des marchés en permanence. Au contraire, il y a une petite musique qui dit, tiens, si on se passait un peu de la finance.
Ben écoutez, je pense qu'il y a immédiat, c'est à dire tous. Si on a un enseignement, peut-être que j'espère qu'on aura de cette situation qu'on a vécue, c'est que les marchés doivent reprendre le chemin du long terme. Mm-hmm. C'est quelque chose dont nous sommes avocats. On a peut-être perdu cette notion un peu au cours des dernières années, avec des taux d'intérêt très bas, une approche assez court-termiste. Et là-dessus, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Mais je pense que la finance peut vraiment jouer un rôle. Et quand je regarde notre rôle de gestionnaire d'actifs, est-ce que nous sommes sortis des marchés? Non. Je pense que c'est important d'accompagner les entreprises. On réfléchit aussi à ce qu'on peut faire de différent pour on va appeler ça la relance, à défaut d'un autre terme. Mais je pense qu'il faudra, c'est pas à nous nécessairement à faire des plans de sauvetage, mais certainement à relancer l'économie, à relancer l'entreprise, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Et quand vous parliez de notre décollecte, moi, il y a un truc qui je sais pas s'il doit me rassurer, mais en tout cas que je note, que j'observe, c'est qu'effectivement, la décollecte n'a pas été très importante de façon générale. Il y a eu une réallocation d'actifs, mais je pense que pour une fois, les investisseurs, de façon, là, je généralise, hein, n'ont pas réagi immédiatement, peut-être de façon épidermique à la baisse des marchés. Mm-hmm. Ont pas vendu au plus bas pour ensuite racheter au plus haut. On a ce début de vision à plus long terme que j'appelle de mes vœux. Mm-hmm. Et, nous, notre rôle, c'est d'accompagner dans ce qui sera sans doute un environnement financier assez différent.
Oui, totalement différent ou pas. Parce que, Enfin, je sais pas, répondez, puis après, justement, parce que j'étais sur la finance verte, oui.
Je me vis du totalement différent. Oui. Dans le milieu
c'est vous qui avez dit, hein. C'est pour ça que moi, j'ai rebondi.
Non. un peu différent. J'ai pas dit totalement. Mmh. Vous avez dit totalement différent. Qui sera différent. Il sera différent, certes. Totalement différent, non, je me méfie de ce terme. Parce que quand on est dans une crise, on est toujours dans un monde, dans une approche où est-ce que rien ne sera plus comme avant. Mmh. Il y a des choses qui vont évoluer dans l'organisation du travail, dans les structures de capital des entreprises, dans la chaîne logistique. Est-ce que ce sera des bouleversements où on passe d'un extrême à l'autre? Je ne crois pas. Il y aura des évolutions, comme chaque période de cette nature qui est un peu charnière apporte. Ça se fera dans la durée. Je pense que c'est un peu... Il faut se méfier de porter des jugements hâtifs sur ce que sera le monde de demain.
Oui. On va en parler parce qu'il y a quand même beaucoup de... Justement, on parle beaucoup de la finance verte. Est-ce que ça peut aider les entreprises? Est-ce qu'au contraire, la finance n'est pas un frein à la transformation des entreprises? On verra. Lorsque vous voyez Warren Buffett qui perd quoi, 55 milliards de dollars, là, comme ça, comme nous, on perd 5 centimes, malgré tout, c'est quand même une petite somme. Où est-ce qu'on peut... Vous êtes gestionnaire d'actifs, Jean Rabhi. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui investir?
Bon. Tout d'abord, je vais juste remettre les choses en perspective.
Oui.
Vous parlez de Warren Buffett, ça me donne l'occasion de parler des marchés américains. Mm. Les marchés américains, aujourd'hui, si on prend le S&P 500, l'indice, je ne veux pas te faire trop de chiffres, mais c'est un symbole parmi d'autres qui est important. Le S&P 500 est au même niveau qu'octobre 2019. Si vous m'aviez dit en octobre 2019 que les marchés, qu'on vivrait à l'époque qu'on vit actuellement, où est-ce qu'on met à l'arrêt une part importante des grandes économies mondiales et que le marché reste au même niveau, j'aurais dit c'est peu probable. C'est pourtant l'époque qu'on vit. Parce qu'il y a des stimulus des banques centrales, parce que les gouvernements ont fait beaucoup d'efforts pour accompagner les entreprises, parce que je pense, beaucoup de gens estiment qu'on a mis l'économie à l'arrêt et qu'on pourra la remettre en marche aussitôt. Je pense pas que ça va être le cas. Réouvrir ne veut pas dire repartir. Il faudra être très discriminant parce qu'il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres et il y a des secteurs qui en bénéficient. Il faut le reconnaître. Donc, aujourd'hui, investir pour nous, ce n'est pas... Et là, ça rejoint mon leitmotiv commercial. La gestion active, discriminante, qui fait une analyse fondamentale. Je pense qu'il faudra être très sélectif. Si on veut être présent dans les marchés, il y aura beaucoup d'analyses à faire et de sélectivité sur les secteurs qu'on souhaitera accompagner. Et surtout à la valorisation qu'on souhaitera y apporter. Ouais. Et ça, je pense que ça va favoriser des gérants d'actifs comme nous.
Quel regard vous portez... avant de partir sur l'Europe, juste un point d'actualité, là. Réunion de la Fed aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de Jerome Powell?
Je pense more of the same.
Oui.
More of the same. Ils sont en anglais c'est le whatever it takes. Mm. Ils l'ont démontré et je pense que la Fed ne sera jamais à court d'ammunition. Mm. Donc déjà le bilan de la Fed est remonté à 5 trillions. Ce qui est intéressant de noter pour la Fed, c'est que la Fed a une telle crédibilité qu'il suffit qu'elle dise qu'elle va intervenir dans les marchés primaires de dette pour que les marchés de crédit se resserrent. Ce qui est arrivé, essentiellement, la Fed, jusqu'à maintenant, si vous regardez le bilan de la Fed, il s'est essentiellement accru en termes d'obligations gouvernementales et un peu d'instruments du crédit sur le crédit immobilier. Mais le crédit investment grade, corporate, n'est pas vraiment sur le bilan de la Fed. Mais la Fed, parce qu'elle dit qu'elle va le faire, a un effet anesthésiant sur les marchés. Anesthésie ne veut pas dire guérir. Et c'est là où la guérison, c'est là où on peut anticiper ou pas le retour de l'offre et éventuellement le retour de la demande. Et ça, c'est tout le défi de la consommation dans un monde où la confiance est affectée et sera affectée.
Je continue juste très rapidement. Sur l'Europe, quel regard vous portez la politique menée par Christine Lagarde à la tête de la Banque Centrale Européenne? Je ne parle pas de petite erreur de communication, mais enfin ça s'est passé. Mais tout à l'heure, vous avez dit ils ont bien su accompagner,
oui, ils ont
à avoir une vision assez globale. Est-ce que vous diriez ça aussi, la Banque Centrale Européenne?
Oui, il y a eu...
C'est suffisant? Parce que, oui, c'est suffisant.
Écoutez, c'est suffisant. Je pense qu'il faut reconnaître, il faut être bien humble devant l'avenir. Bon, on parle beaucoup de deuxième vague du virus qui pourrait intervenir. Mmh. Là-dessus, moi, je suis plus réservé. Je suis peut-être plus un peu optimiste. Parce que, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On est toujours dans le rétroviseur. Est-ce que la réponse à la deuxième vague, s'il y a une deuxième vague de crise sanitaire cet automne, est-ce que ce sera la même que la première? Peut-être pas. Je pense qu'on est sans doute beaucoup mieux préparé. Et donc, la réponse pourra être différente. Donc, moi, je ne veux pas dire si ça sera suffisant. Je ne sais pas ce que l'avenir sera fait. Je note qu'aujourd'hui, il y a eu un stimulus important à la fois de la BCE et de la Fed aux États-Unis et de d'autres banques centrales, japonaises ou canadiennes ou autres.
Il y a Grégoire Favet, vous savez, qui anime cette excellente émission l'après-midi ici sur BFM Business. Il parle de répression financière pour les gestionnaires d'actifs, notamment pour ceux qui vont les marchés financiers, parce qu'en 10 ans, il y a avec cette politique de taux d'intérêt si bas, qui est une manière de relancer l'économie, bah, du coup, pour des acteurs comme vous, Jean Rabhi, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi?
C'est un vrai défi. Oui. C'est un défi pour nos clients.
Et vous reprenez le terme de répression financière?
Non. C'est plutôt. vous savez, on a beaucoup de clients institutionnels qui ont des engagements à long terme qu'il faut servir. Historiquement, c'était une approche très obligataire. Aujourd'hui, avec le taux d'intérêt là où ils sont, je pense qu'il va falloir réfléchir à de nouvelles façons de générer le rendement que les fonds de pension, que les institutionnels doivent verser à leurs clients. Et je vous rappelle que dans la plupart des cas, c'est les gens comme nous, in fine. Donc, ça va être important d'accompagner nos clients dans cet environnement qui ne sera pas simple. Et ensuite, à 3, 5, 7 ans, est-ce qu'on aura une remontée des taux d'intérêt? Est-ce qu'on aura un retour de l'inflation? Chacun peut avoir son point de vue. Personnellement, je pense qu'à terme, il y aura de l'inflation à nouveau.
Et le terme, il est pour quand, vous? Parce que c'est un débat extrêmement important.
Pas immédiatement, parce qu'on n'est pas du tout dans ce registre. Est-ce que c'est 3, 5, 7 ans?
Malgré cette crise qui va forcément entraîner de l'inflation, parce qu'on voit bien, si vous voulez consommer le plus local, avoir moins de délocalisation, si vous voulez relocaliser, tout on le dit, que ce soit pour les fraises, la tomate ou une voiture, ça va coûter plus cher.
Il y aura des impacts.
Donc l'inflation, elle va être là.
Est-ce que la chaîne logistique sera complètement déglobalisée? Je ne crois pas. Est-ce que ce sera raccourci? Sans doute. Ouais. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que la demande doit être au rendez-vous. Est-ce que la demande sera au rendez-vous? Je pense que la confiance a été affectée. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Est-ce qu'elle reviendra au même niveau qu'avant la crise, dans le monde d'avant? Je parierai pas, ou en tout cas pas immédiatement. Ce sera sur le long terme. Oui, il y aura d'augmentation de coûts. Pensez simplement aux restaurateurs qui, lorsqu'ils pourront réouvrir, devront espacer leur offre. Et donc, ça va avoir soit une rentabilité radicalement réduite, soit une augmentation des prix. Par contre, les prix de l'énergie, vous le voyez bien, ils sont faibles. Donc, il y a plusieurs phénomènes. Mais je pense qu'à terme, on aura de l'inflation. La pression fiscale sera importante. Les taux d'intérêt vont augmenter à terme parce qu'il y aura beaucoup de demandes de crédit, justement pour ces entreprises qui doivent faire face à ce recul de leur chiffre d'affaires et de leur profitabilité. Et il y aura peut-être un souhait que ça arrive pour dévaluer le stock de dette qu'on aura tous accumulé.
C'est ça. Je vous attendais au tournant, comme on dit. On en a besoin, non?
À quelque part, ça peut avoir un avantage.
Comment vous réagissez? Alors, pas pour des spécialistes comme vous, mais on parle beaucoup de la dette perpétuelle, en disant, maintenant, c'est 1 000, 1 500, 2 000 milliards, etc. Pas très grave, parce qu'on va mettre ça, dans le bilan de la Banque Centrale Européenne, avec des taux zéro, remboursables. Ça va disparaître dans le sable monétaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis un peu comme le ministre Le Maire. Le concept de dette perpétuelle, c'est un instrument financier qu'on a utilisé pour certaines sociétés, mais collectivement, l'endettement doit rester à la mesure de la capacité de croissance et de génération de valeur ajoutée des économies. Et donc, tout dépendra de ça. Et si on est capable de relancer la machine, de retrouver cette croissance et croissance, on peut supporter un niveau d'endettement important. Mais c'est du boulot et je ne peux pas vous dire que ce sera au rendez-vous immédiatement. Pas du tout.
Quels sont les... Alors, je reviens un petit peu en arrière, mais parce que les secteurs qui vous paraissent, les catégories d'actifs intéressantes, parce que vous avez dressé quelques pistes, mais si je vous pousse un peu dans vos retranchements...
Je vais vous dire des banalités. Regardez comment vous avez vécu le confinement. Vous avez utilisé tous les outils technologiques qu'on peut imaginer. La digitalisation va s'accélérer à vitesse grand V. Le travail à distance va jouer un rôle. Le commerce électronique... Pour certains, c'est un nouveau développement. Pour d'autres, c'est quelque chose sur lequel ils avaient déjà capitalisé et qui s'est accru de façon majeure. L'éducation à distance va avoir un rôle. Tout ce qui est santé, je pense qu'on va reprendre une approche assez attentive à notre santé. Évidemment, dans l'alimentation aussi. Donc, plusieurs secteurs qui vont, je pense, en profiter. Il y aura des gagnants et des perdants. Ouais. Et peut-être que les secteurs aussi aujourd'hui les plus délaissés, l'aviation, l'hôtellerie, la restauration, ils exerceront toujours. Ça fait partie de notre façon de vivre collectivement, ce qui fait plaisir, ce qui donne un goût à la vie. En revanche, il y aura des changements de détention, des changements propriétaires.
Ce matin, je recevais Jean-Charles Decaux, le co-directeur général de JC Decaux, et qui disait, c'est ce qu'ils ont fait du reste en Chine, il disait, y a des opportunités à saisir. Ils l'ont saisi en Chine. En plus, il y a un cabinet qui a démontré qu'il y avait une baisse des valorisations extrêmement forte, c'est CQFD, hein, des entreprises. Donc ça va booster les fusions-acquisitions, donc ça fait des opportunités non, pour les entreprises.
Qu'est-ce pas immédiatement, je pense que, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des valorisations, je pense que chacun ne sait pas
ce que, la suite.
La valeur des actifs, parce qu'il y a une distorsion, il faut, faut l'appeler comme telle, grâce au stimulus des banques centrales, ce qui a évité une crise financière. Mais quand on se met dans une approche à long terme où est-ce qu'on fait un investissement important, on souhaite avoir des bases de valorisation qui soient plus pérennes. Et donc, je pense que ça va prendre un certain temps avant qu'on reprenne le marché des fusions et acquisitions. Si on, si là, je reprends votre balle au bon sur le parallèle avec la crise de 2008, et là, je suis prêt à le faire, il y a eu cette dislocation et on a repris le chemin des fusions-acquisitions 12 à 18 mois plus tard.
D'accord.
Ça peut être donc un horizon.
Là, pour le coup, oui, vous acceptez
2021-2022.
Il y a une question.
Je fais un parallèle, je me permets cette exception à mon refus de faire des parallèles trop importants.
Jean Rabhi, quand même, il y a une question qui préoccupe un peu tout le monde quand même, c'est de savoir, vous avez expliqué les secteurs qui allaient, la digitalisation, etc., etc. Là, ce sont des Américains qui sont les plus forts, voire les Chinois. L'Europe, pour l'instant, elle a du mal à percer, à trouver sa place, même si on investit beaucoup, qu'on a des super pépites, mais enfin, c'est insuffisant. Est-ce que vous êtes inquiète un peu sur l'Europe, voire sur la zone euro, voire sur l'euro?
Je ne suis pas inquiet sur l'euro. Je pense qu'il y a vraiment une volonté politique.
Parce que vous voyez que ça pousse,
ça tire
dans tous les sens.
C'est normal.
Hein.
C'est normal. On est dans une période très difficile. C'est normal que ça tire, mais je ne suis pas inquiet sur l'euro. On est, je pense qu'on croit de façon collective à la convergence de la zone euro, au maintien de la zone euro. Sur l'Europe, vous savez, si je porte un jugement, et là, je ne veux pas porter mon jugement nord-américain, mais je vais vous faire cette phrase qui est la mienne depuis des années. Malheureusement, les États-Unis innovent, l'Europe régule. Ça serait bien que... Et là, il y aura une réponse réglementaire à ce qu'on vit, je suis certain. Il ne faut pas tomber dans l'excès non plus. Faut pas que... Je reviens à mon thème. Le monde d'après n'est pas de rejeter le monde d'avant. Une évolution, certes, mais pas une révolution.
Eh bien, justement, j'allais vous poser la question, c'est quoi le monde d'après? C'est la question donc rituelle dorénavant dans l'orage. Le monde d'après, selon Jean Rabhi, oui, c'est une belle formule redite, là.
Viens d'en faire vous faire une réponse. Une évolution, certes, pas une révolution. Par contre, si je regarde à court terme, pas à court terme, dans mon univers de gestionnaire d'actifs, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va attirer notre attention. Je pense que le bilan des entreprises va avoir une attention plus grande. Il y aura une augmentation de l'endettement. Évidemment, dans un environnement des taux à zéro, presque, c'est un sujet d'attention moindre. Ça va le redevenir. On va souhaiter que les entreprises prennent une approche à plus long terme. C'est quelque chose dont on est très vocal. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut arrêter le reporting trimestriel des résultats des entreprises.
Ah, ben voilà.
Ça encourage une vision à court terme avec laquelle je ne suis pas d'accord. Bon, c'est une vision personnelle, hein, c'est pas une vision groupe.
Oui, enfin, vous gérez quand même 800 milliards, quoi. Donc,
mais il y a des gérants.
Mais vous n'êtes pas seul,
Je ne gère pas l'argent des autres. Oui. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on aura une organisation du travail qui sera un peu différente aussi. Et ça va être. Et la digitalisation qu'on continuera à poursuivre encore, de façon encore plus stratégique.
Merci beaucoup Jean Rabhi, donc le patron de Natixis Investment Manager. Surtout restez avec nous parce que dans un instant, je voulais terminer cette émission avec une petite touche positive. On retrouve Emmanuel Lechypre, l'économiste en chef de BFM Business. Il nous dit, le pire est derrière nous, reconnaissez que ça valait le coup de l'avoir. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Edwige.
Le pire est derrière nous. On a eu plein d'analyses ce
Absolument.
Matin, d'études,
oui.
La Banque de France hier, etc. etc. Donc, faites-nous pourquoi.
Alors, batterie d'études, première conclusion forte, c'est effectivement le creux de l'activité a été dépassé. On connaît à peu près l'ampleur de la chute. Hein. Ça a été au pire à la mi-mars, où là, on avait une activité qui était inférieure de 32% à ce qu'elle est d'habitude un mois de mars. Alors, il faut aussi se familiariser avec cette nouvelle façon de regarder les statistiques, comme l'INSEE et la Banque de France. C'est-à-dire que quand on vous donne un pourcentage de variation, c'est pas par rapport au mois précédent ou au même mois de l'année précédente, comme on fait d'habitude. C'est par rapport à ce que serait un mois normal. Et ça, c'est important. Et donc, effectivement, on a des secteurs comme la construction, des secteurs comme l'industrie, qui ont recommencé progressivement à monter en charge, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas des services. Et puis, le deuxième message qu'on peut retirer de toutes ces études, c'est que jusqu'à maintenant, mine de rien, malgré le côté extraordinairement spectaculaire des chiffres, eh bien les entreprises ont plutôt bien résisté. L'enquête BPI, par exemple, ouais. Vous n'avez que 1% des dirigeants d'entreprises qui envisagent d'ores et déjà une liquidation de leur boîte. Vous avez 7% des PME qui jugent leurs difficultés de trésorerie insurmontables. Donc, les aides, elles ont quand même marché jusqu'à maintenant. En revanche, ils sont tous très conscients que la sortie de crise va être longue. Vous avez cette enquête, par exemple, d'OPEO pour la Fédération des industries mécaniques. Il y a 72% des industriels qui disent « Attendez, on ne retrouvera pas une situation normale avant au moins 9 mois. » Et il y a des anticipations de réduction des investissements qui sont très fortes. Tout ça pour dire que ce qui va se jouer maintenant... C'est la deuxième partie du plan de soutien à l'économie. Tout ce qui a été allègement de charges, loyers, etc., ça a bien fonctionné. En revanche, si on veut éviter que cette crise, qui affiche les chiffres les plus spectaculaires de toute l'histoire économique, ne devienne effectivement la plus grave crise de toute l'histoire économique, eh bien, il faut qu'il y ait très vite un deuxième train de mesures qui soit annoncé. Alors, la Banque de France a dit, il faut donner la priorité absolument aux fonds propres. Et c'est comme ça qu'on évitera un bain de sang sur le plan des faillites ou sur le plan du chômage. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que cette fatalité-là, elle n'est pas écrite. On peut encore éviter que cette crise soit catastrophique, mais il faut bien que le relais se fasse entre les mesures d'urgence qui ont été prises pendant le confinement et les mesures d'accompagnement qui vont devoir aider beaucoup de secteurs encore pendant plusieurs mois.
Et François Asselin, qui est le président de la CPME, qui était l'invité de l'Orage, la disait à l'instant dans son plan de relance qu'il va présenter, qu'il faudrait notamment une mesure qui permet de transformer l'endettement en quasi-fonds propres, parce que c'est ce qui permettrait...
Je ne sais pas ce qu'en pense le financier, mais pour moi, ça veut dire... C'est de l'abandon de dette. Quand on vous fait un crédit et que vous, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de le rembourser, vous consacrez les sommes aux fonds propres. Donc,
un commentaire, Jean Rabhi, sur ce que vient de dire Emmanuel.
Moi, je pense que les gouvernements jouent leur rôle. Oui. Parce que ce qu'on est en train d'entendre, c'est que les programmes qui ont été mis en place ont eu un impact. Toute la question, c'est la durée.
Oui.
Et c'est là, et c'est la vitesse du rebond.
Merci beaucoup, mais quand même, allez, le pire est derrière nous, c'est ce qu'il faut se dire.
Oui, absolument.
Merci Jean Rabhi, merci Emmanuel Le Chip. Voilà, c'est la fin de l'orage. J'en profite pour vous dire que demain, dans l'orage, je recevrai Éric Lombard, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, justement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans tout le secteur tourisme, hôtellerie. Et puis demain matin, c'est Geoffroy Roux-de-Bézieux, le président du MEDEF, qui sera mon invité à 8h15. Surtout, soyez à ses rendez-vous. Bonne journée.